5h en temps universel, 7h ici à Paris.
Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On part pour 3 heures d'actualité internationale RFI Matin, en partie consacrée aujourd'hui au protocole d'accord signé entre États-Unis et Iran. Et c'est aussi à la une de votre journal. Bonjour Julien Coquelroem.
Bonjour Clotilde. La confusion autour des négociations à venir entre Washington et Téhéran, elle devait débuter aujourd'hui en Suisse. Mais le vice-président américain J.D. Vance annonce pour l'instant rester à Washington. Reportage aux États-Unis dans un instant. L'actualité également à Bruxelles avec le Conseil européen jusqu'à ce soir. Comment se préparer à une guerre commerciale avec la Chine qui semble devenue inéluctable? Les 27 se penchent sur la question sans nommer Pékin explicitement. Dans ce journal également, le Venezuela est devant l'ambassade américaine, le campement des familles de centaines de prisonniers politiques toujours détenus. Nous sommes aussi à Accra où le sommet sur les réparations liées à l'esclavage et à la colonisation s'est refermé hier. En France, la canicule est le danger particulièrement grand pour les sans-abri et les mal logés. Et puis la Coupe du Monde de foot et le timide décollage des réservations d'hôtels aux États-Unis.
Elles n'ont pas encore commencé, qu'elles sont déjà dans le flou.
La confusion autour des négociations entre l'Iran et les États-Unis après la signature du protocole d'accord entre les deux pays par leurs deux présidents mercredi. Un premier tour de négociation était jusqu'ici annoncé pour aujourd'hui en Suisse, mais la Maison-Blanche a annoncé cette nuit que le vice-président J.D. Vance restait pour l'instant à Washington. Le lieu des pourparlers pourrait lui aussi changer, alors que selon J.D. Vance, le compte à rebours des 60 jours pour trouver un accord final a commencé dès hier. La grogne monte aux États-Unis alors que plusieurs élus républicains et le camp démocrate critiquent sévèrement Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président américain revendique lui une victoire totale et s'est contenté de les traiter d'idiots. Qu'en pensent ceux qui pourraient occuper bientôt des postes de pouvoir aux États-Unis ? Vincent Souriau est allé sonder les étudiants de la prestigieuse université Harvard, près de Boston. Reportage.
Nous sommes devant la Harvard Kennedy School qui forme les futurs dirigeants aux enjeux diplomatiques. Mais à propos de l'accord avec l'Iran, aucun étudiant ne veut se mouiller. À part ce jeune homme qui réclame l'anonymat, le grand gagnant de cette guerre, c'est selon lui le secteur de la finance américaine.
En créant toutes ces complications, vous poussez les capitaux à quitter le Moyen-Orient et ces capitaux sont rapatriés à Londres ou à New York. Regardez l'effondrement de l'économie à Dubaï, avec en parallèle l'énorme progression du volume d'actifs financiers aux États-Unis et dans certains pays d'Europe très impliqués dans cette région.
Au terme de cet accord, les États-Unis et certains de leurs partenaires pourraient finir par investir 300 milliards de dollars d'argent privé en Iran. Après le Venezuela, il y voit une nouvelle forme d'entrisme de l'administration Trump.
On n'a pas encore tous les détails, mais ces 300 milliards qui entrent en Iran, ça va servir de tremplin à l'économie américaine avec un schéma similaire à celui du Venezuela. L'Iran devient un nouveau pays, une nouvelle économie que les États-Unis, pour être très franc, vont pouvoir exploiter.
Les perdants dans tout ça, les Américains, d'après lui, en raison de l'inflation provoquée par ce conflit, financé, souligne-t-il, avec de l'argent public. Vincent Souriau, Boston RFI.
Et côté iranien, le guide suprême Mojtaba Khamenei a annoncé hier avoir approuvé le protocole d'accord, tout en évoquant une opinion différente, sans donner plus de précision. La fin de la guerre au Liban fait partie des conditions toujours posées par Téhéran, mais l'offensive israélienne se poursuit dans le pays. De nombreux morts et blessés ce matin dans le pilonnage d'une douzaine de localités du sud Liban, selon l'agence officielle libanaise.
On va continuer d'évoquer ces négociations entre l'Iran et les États-Unis. Juste après le journal, rendez-vous avec notre premier invité, l'historien et chercheur spécialiste du Moyen-Orient, Jonathan Piron, sera avec nous sur RFI.
Il se retrouve jusqu'à ce soir, les dirigeants de l'Union européenne réunis en conseil à Bruxelles pour évoquer notamment l'Ukraine. En présence de Volodymyr Zelensky, la Chine est aussi au menu. Puisque les 27 se sont penchés cette nuit sur leur déficit commercial, ils n'évoquent pas Pékin officiellement, mais l'objectif est bel et bien de muscler leur défense face au pays sans pour autant créer une guerre commerciale. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
L'Union européenne veut éviter l'escalade, mais elle est très inquiète.
Ouais, pour les Européens, l'affrontement est inévitable. Il y a urgence, le constat est alarmant. Chaque jour, l'UE encaisse un déficit commercial d'1 milliard d'euros, 31,9 milliards rien que pour le mois d'avril, par exemple. L'économie européenne ne pourra pas supporter d'être le débouché de la Chine. Alors, pour qu'elle survive, les 27 ont appelé cette nuit la Commission à, je cite, compléter l'arsenal en matière de défense commerciale. Leur préoccupation immédiate, réduire le risque de la destruction du tissu industriel européen sans se couper du marché chinois et surtout de le faire par un dialogue constructif, c'est-à-dire ne pas risquer de se voir à nouveau menacé d'une interdiction d'importation de terres rares, par exemple. Mais même l'Allemagne, jusqu'ici totalement hostile à toute mesure protectionniste, réalise désormais que son économie est très exposée. Certains, comme la France, estiment que les outils existent déjà, des mesures anti-dumping contre les subventions pour la protection des marchés publics et des mesures de sauvegarde, mais leur utilisation doit être accélérée et il ne faut plus hésiter à utiliser l'instrument anti-coercition.
Pierre Benazet à Bruxelles pour RFI, merci beaucoup.
Dans l'actualité également, Julien, en Venezuela, le début d'un dialogue en vue d'une transition démocratique.
6 mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis à Caracas, l'ex-parlementaire d'opposition Dinora Figuera est rentrée hier de son exil pour entamer des discussions avec le régime, en vue notamment de mettre en place un conseil national électoral crédible, selon ses mots. Les États-Unis s'en félicitent dans un communiqué, alors que Washington a obtenu depuis janvier des concessions de la nouvelle présidente Delcy Rodriguez, notamment des centaines de libérations de prisonniers politiques. Ils sont pourtant encore nombreux aujourd'hui derrière les barreaux. Et depuis 10 jours, des proches de détenus ont planté leur tente devant l'ambassade des États-Unis au Venezuela pour attirer l'attention sur leur sort. Reportage Alice Campagnol.
Le campement est calme, il a plu toute la nuit. Alors ce matin, ses occupants essorent leur couverture et tendent leurs vêtements.
L'eau traverse la toile de nos tentes, alors au petit matin, on est trempé. C'est là qu'on tombe malade, la fièvre, un rhume.
Darlis s'est installée ici il y a une semaine. Son père est prisonnier politique et elle est inquiète car l'homme de 65 ans est malade.
Il n'est vraiment pas en forme en ce moment. Il a du diabète, il a une hernie au niveau du nombril, des champignons dans les oreilles, ça l'a rendu sourd. Bref, sa santé se détériore.
L'an dernier, 181 prisonniers ont trouvé la mort en détention, la plupart faute de soins médicaux. Sur le campement, les familles espèrent trouver une oreille attentive à l'ambassade des États-Unis.
On va voir si ici ils nous écoutent. Ils sont venus pour le pétrole, pour l'or ou bien pour aider le Venezuela et les prisonniers politiques.
ONG et Foro Penal, ils sont encore 389 prisonniers politiques derrière les barreaux au Venezuela. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Il est 5h08 en temps universel. Pour la première fois, tous les peuples africains parlent d'une seule voix.
Les mots d'une dirigeante caribéenne. Hier, la première ministre de la Barbade présente au Ghana pour le sommet d'Accra. Sur les réparations liées à l'esclavage et à la colonisation, il s'est terminé ce jeudi et c'était le premier grand sommet organisé depuis l'adoption en mars d'une résolution des Nations Unies qualifiant l'esclavage de plus grave crime contre l'humanité. La présence des Caraïbes aux côtés des dirigeants africains n'avait rien d'anodin. Compte rendu sur place, Christina Okello.
De la Barbade au Ghana, du Sénégal à la Namibie, les dirigeants réunis à Accra se sont succédés à la tribune avec un même objectif, se rassembler autour de la question des réparations. Pour le président ghanéen, John Mahama, cette nouvelle étape ne peut se construire sans la diaspora africaine.
Les descendants de ceux qui ont subi l'esclavage ne sont pas de simples observateurs de ce processus. Ce sont eux les premiers concernés et leurs expériences, leurs connaissances et leurs aspirations doivent contribuer à façonner notre avenir.
Pour réparer la Barbade, par la voix de sa première ministre, Mia Mottley défend notamment un plan en 10 points prévoyant développement, transfert de technologies et allègement de la dette.
Ce qui a été emporté d'Afrique à travers l'Atlantique, ce n'était pas seulement une force de travail. Ce qui a été emporté d'Afrique à travers l'Atlantique, c'était aussi des idées, une humanité, des arts et une culture. Ce qui est revenu aujourd'hui, c'est une prise de conscience qui façonnera le monde du 21e siècle.
À Accra, beaucoup espèrent que cette prise de conscience marquera le début d'un nouveau chapitre. Christina Okello, Accra, RFI.
Dans ce journal aussi, Julien, un épisode étendu, durable et intense.
L'épisode de chaleur qui s'installe en France comme dans d'autres pays d'Europe. 53 départements français en vigilance orange canicule ce matin et un pic attendu selon Météo France en début de semaine prochaine avec des pointes à 40 degrés. Le réchauffement climatique rend ce genre d'événement plus fréquent et nous ne luttons pas tous à armes égales. Le danger de la chaleur est immédiat, notamment pour les personnes sans domicile ou hébergés dans des structures d'accueil non adaptées. Face à la chaleur, dans l'Est parisien, un gymnase a été transformé en centre d'hébergement d'urgence. Mais ce n'est pas forcément le meilleur refuge pour autant. Reportage Chloé-Edouard.
Les rayons du soleil matinal tapent sur les vitres de cette salle de basket, réaménagée en centre d'hébergement d'urgence. 9h du matin et déjà 24 degrés à l'intérieur. Les résidents trouvent donc des solutions pour tenter de se rafraîchir comme ils peuvent.
La RATP m'a donné un éventail. On me donne de l'eau fraîche parce que je suis malade, je fais de l'hypertension.
Un seul climatiseur a été installé dans ce bâtiment, abritant 130 personnes.
Pour l'instant, il y a la seule climatisation, mais ça ne fait pas. Il y a beaucoup de monde ici.
Pas facile de refroidir ce lieu, comme nous l'explique Sylvie Doué, directrice du dispositif d'hébergement à la Fondation de l'Armée du Salut à Paris.
Ce gymnase, il est assez ancien, il y a beaucoup de vitres. Sa configuration fait qu'on ne peut pas tellement aérer. Donc nous, on a mis des apports, on a mis des blocs climatiseurs, mais vu la taille du gymnase, évidemment, il faut en mettre plusieurs. On distribue de l'eau à volonté, des brumisateurs rechargeables et puis des glaces pour les enfants le mercredi.
Face à ces vagues de chaleur qui risquent d'être de plus en plus intensives et récurrentes en raison du réchauffement climatique, l'Armée du Salut lance un appel aux dons pour récupérer éventails, crème solaire, chapeau, gourde. La rue tue toute l'année. Selon le collectif Les Morts de la Rue, 228 personnes sans domicile fixe sont décédées depuis janvier 2026.
Reportage signé Chloé-Edouard.
Et puis Julien, la Coupe du Monde de football se poursuit.
Avec une première équipe qualifiée pour les 16e de finale cette nuit, le Mexique victorieux 1-0 contre la Corée du Sud. Le mondial qui semble commencer à porter ses fruits économiques aux États-Unis après des débuts décevants. Au mois de mai, 80% des hôtels interrogés par une étude disaient être en dessous des prévisions de réservation en raison notamment des...
Or is that our own?
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Tanto amor dentro.
pra que possessão, minha terra, minha igreja. Não vou roçar o nosso corpo, vou roçar minha nova melança. Seu corpo vou roçar. Ora, ora, vamos embora. Vamos embora, ora, vamos embora. Vamos embora, ora, vamos embora. Vamos embora, ora, vamos embora.
Quant à l'occasion d'être dans un pays où l'histoire nous a amené à avoir des libertés et à pouvoir parler de certaines choses, ou dans d'autres pays où on coupe la tête tout simplement, eh bien je pense que c'est important d'amener la masse vers le haut et d'essayer de partager les informations que tu as récoltées, même si elles sont dangereuses à divulguer, parce que y a des vrais titres que moi j'ai écrits sur mes derniers albums, ça parle de l'actualité, avec des vrais responsables de la situation mondiale aujourd'hui.
Que tu nommes.
Bien sûr, moi de toute façon j'ai toujours nommé chirurgicalement les responsables de nos conditions.
Une thématique de plus pour la bonne santé. Les recherches affûtées pour savoir quoi manger. Ils ont tout pollué, il y a des responsables. On n'a pas perdu comme ça les océans en mer de sable. C'est palpable, inacceptable. Allez, on balance cartes sur table. De plus en plus de maladies, de pathologies, de cancers qui se développent dans les zones rurales autant que dans les villes modernes. Souvent quand on se penche sur les tenants et les aboutissants, on trouve des multinationales avec de l'argent très polluant. Demande à Monsanto ce qu'il y a comme cadeau derrière le dioxine. Demande à Aniston ce qu'est un taux de PCB. Chacun de ses habitants sait ce qu'est être contaminé. Aroclan, Piralène, Clofen, le même nom pour des décès. Mais aussi pour 50 ans de fortune d'une firme qui tue légalement ou qui rend infirme. Ça pollue dans tous les sens depuis les 30 glorieuses. Contamination des sols, économie honteuse. De l'agent orange aux herbicides, il n'y a qu'un pas. De l'aspartame aux hormones de croissance, il n'y a qu'un pas. PCB aux OGM, c'est toujours le même pas, celui du profit de corporation qui tue 200 fois. On va les afficher, ces criminels de la FDA, la CIA, de la Maison Blanche, à clause d'État, de la Commission européenne. Kiken, 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 kiken. Toutes nos assiettes à coups de OGM. Contrôler la nourriture est plus puissant qu'une bombe, est plus puissant qu'une arme. Nous, ils creusent nos tombes, transforment nos vies en drame. Du DTT au PCB, des phtalates au PFO, des PBDE, partout dans nos vies, de bas en haut, de haut en bas, sur les côtés, cautionnés par l'OMC. Donc l'ONU, très peu de pouvoir pour l'ORD. On viole les lois, ou pire, on les fabrique pour que l'économie mondiale pollue légalement cette terre magique. Par Monsanto, Ron Poulin, ou Aventis si tu préfères. Par le privé ou le public, la bourse ou le ministère. Le CEA ou l'AFSA ne parle jamais du nucléaire. Radiation, des aliments, ça ce n'est pas nos affaires. De l'agent orange aux herbicides, il n'y a qu'un pas. De l'aspartame aux hormones de croissance, il n'y a qu'un pas. PCB aux OGM, c'est toujours le même pas, celui du profit de corporation qui tue 200 fois.
Yeah, ce n'est qu'une petite bastos, la suite arrive, t'inquiète, on se renseigne, la suite arrive. Allez, ciao.
repasse d'une musique mal faite à une musique bien faite, ça je peux le discerner. Mais de la musique bien faite au chef-d'œuvre, ça vous ne pouvez pas.
Principe actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.